Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Nous lisons au verset 6 ce récit certainement que vous connaissez, que vous allez mettre dans le contexte de l'histoire. Nous est dit Jacob mourut, Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Et les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph, et dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui les chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen. Voilà une portion de la parole de Dieu qui est bien, bien défiante pour le peuple d'Israël. C'est quelque chose de terrible. Mais avant de plonger dans ce récit et puis d'en tirer quelques leçons, j'aimerais peut-être vous amener vers une portion de l'histoire que nous avons vécue dans notre monde au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Au cours de ce qui s'est passé dans la bataille dans le Pacifique. C'est l'histoire du général Jonathan Wainwright. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette histoire-là. Bien, c'était en 1942, la guerre faisait rage partout, et concernant le Pacifique, l'armée japonaise avait envahi partout. C'était terrible, et particulièrement dans les îles des Philippines. C'était vraiment catastrophique. Ils prenaient du terrain, et finalement, le général en chef, à ce moment-là, le général MacArthur, a dû se replier en Australie pour réorganiser la contre-attaque. Et avant de quitter la région de Corregidor aux Philippines, il a demandé à un autre général qui était sous ses ordres, le général Jonathan Wainwright, et il lui a dit, écoute, je pars pour organiser la contre-attaque, mais toi, tu vas rester ici. Tu vas tenir bon, tu ne lâches pas, et tu vas tenir jusqu'au bout. Je reviendrai. Et avec beaucoup de difficultés, il a pu rejoindre l'Australie, laissant cet homme Wainwright qui avait dit « Je ferai tout pour tenir bon ». Mais je passe sur les détails, et si vous êtes quelque peu curieux de tous ces récits, c'est vraiment formidable de lire dans les détails. C'était des temps très difficiles. L'armée japonaise pilonnait ce petit endroit de façon atroce. Et ils ont résisté pendant quelques mois. Wainwright avec son armée. Mais ils étaient affamés, ils étaient malades. On n'y avait pas suffisamment de possibilités de soigner les blessés et c'était une armée en guenilles. Et finalement, avec la mort dans l'âme, Wainwright a dû envoyer un message au président des États-Unis et à son chef en lui disant « Je ne peux pas laisser mon armée se laisser détruire. Ils ont fait plus qu'il ne faut pour résister. Alors, nous allons nous rendre. » Et ainsi, Wainwright s'est rendu aux Japonais. C'était vraiment une honte pour lui. Il était très accablé de ne pas avoir pu tenir parole alors qu'il avait dit je ferai tout pour gagner, pour résister. Mais il ne le pouvait pas par amour pour ses troupes qui se faisaient décimer et qui avaient résisté au-delà de toute mesure. Les Japonais ont éparpillé sa troupe dans tous les camps de prisonniers. Et Wainwright, lui, il a été emmené dans un camp de concentration, de redressement en Mandchourie, en Mongolie. Et là, il a été laissé seul, oublié. En tout cas, personne ne pouvait l'atteindre de ses amis ou de son armée alliée. Et cet homme était dans une grande souffrance. Du côté japonais, eh bien dans ce camp, il y avait un commandant fort, bien portant, et qui était tellement fier d'avoir dans ses rangs de prisonniers le seul général américain prisonnier. Et il le traitait avec mépris. Il lui faisait toutes les brimades possibles. Il lui rendait la vie encore plus dure que jamais. Cet homme est tombé malade. Il était brisé physiquement. Il avait la dysenterie et plein d'autres choses. Il maigrissait et il ne tenait pas bien sur ses jambes. Et moralement, intérieurement, il était complètement brisé, retourné, saisi constamment par un sentiment de culpabilité et d'échec. Ça, c'est ce qu'il vivait, dans son coin perdu. Mais il ne savait pas, au fil des mois et pendant quelques années même, cela s'est passé en 1942, il ne savait pas que, justement, eh bien, l'armée alliée se réorganisait sous l'impulsion de MacArthur qui a finalement reconquis, île après île, le Pacifique. Jusqu'à ce que, finalement, en août 1945, eh bien, il y a eu la victoire totale pour l'armée des Alliés et il y a eu les Japonais qui ont présenté leur reddition. Les choses allaient vraiment extraordinairement à l'extérieur, mais Wainwright, lui, était toujours prisonnier dans son camp. Aucune nouvelle ne lui arrivait. Il était dans le camp des vainqueurs, mais il se croyait toujours vaincu. Il pensait que c'était vraiment perdu. Et il était là, en souffrance, se faisant maltraiter. C'est quelque chose de terrible, n'est-ce pas? De vivre dans l'ignorance d'une vérité qui nous libère. C'est ce qui s'est passé pour cet homme. Pendant quelque temps, et exprès, le commandant cachait la vérité et continuait à brimer et à brimer Wainwright. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce que, enfin, un colonel américain a été dépêché vers ce camp de redressement. Et personnellement, il a annoncé la nouvelle à Wainwright. On va continuer le récit de Wainwright un peu plus tard. Mais maintenant, on revient vers le texte que nous avons lu. Et je voudrais amener là une situation similaire. Nous arrivons en Égypte. Il y a plus de 3000 ans de cela, une histoire vraie. Et nous découvrons un homme, Pharaon. C'est l'homme le plus puissant de la terre à cette époque-là. Il gouvernait sur le vaste empire de l'Égypte. Dans la croyance, il faisait croire, et il certainement y croyait lui-même, qu'il était, pour ceux qui connaissent un petit peu les situations du passé, les pharaons se comportaient, se croyaient être des demi-dieux personnifiés. Et ils imposaient partout toute leur force, leur autorité despotique. Cet homme était craint. L'armée égyptienne, à cette époque, c'était la plus grande et la plus puissante armée sur des milliers de kilomètres à la ronde. Personne ne pouvait résister à une telle armée. Mais allons plus loin. Voyons Pharaon dans l'intimité de lui-même. Qu'est-ce que nous découvrons et révélons dans ce passage? Pharaon, celui qui, humainement parlant aux yeux de tous, était sans conteste le plus fort et le dominateur, était celui qui, tout seul, tremblait dans sa chambre. Il était, lui, torturé par une réalité qu'il connaissait. Il savait quelque chose qui l'effrayait. Nuit et jour, il était poursuivi par une hantise. Et il se disait: au milieu de nous, il y a un peuple particulier. Un peuple qui est plus puissant que nous. Plus fort, plus nombreux que nous. Et j'ai une crainte terrible de ce peuple-là. J'ai peur de lui, j'ai peur qu'il réalise un instant qui il est. Comment il est? J'ai peur que soudain, dans la réalisation de cela, il ne puisse se lever, se dresser contre nous, contre moi, et qu'il puisse prendre l'ascendance et nous renverser. C'était sa crainte. C'était sa peur. Il avait tellement peur de cela. C'était ce qu'il rongeait jour après jour, tout seul, jusqu'au moment où, ne pouvant plus, nous le voyons partager avec son état-major. Il va dire cela. Et puis, ils vont réagir ils vont réagir. Alors nous avons parlé de Wainwright, nous n'avons pas fini avec lui. Nous avons parlé du peuple d'Israël, nous n'avons pas fini avec son histoire. Nous arrivons maintenant à nous. Frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle pour l'Église que nous verrons vers la fin. Mais en comparaison, nous pourrions nous dire par rapport à Israël que maintenant, nous sommes des enfants du Seigneur. Nous sommes ce peuple mis à part. Et nous sommes dans le monde. Je continue toujours un petit peu plus loin par rapport à tout ce que nous avons partagé, que ce soit le vendredi en réunion prière, en étude biblique ou le dimanche. Et ces derniers temps, nous avons parlé de l'Église. Dimanche, où nous étions ensemble, nous avons parlé de l'Église modèle dans le livre des Actes des Apôtres. Et maintenant, j'aimerais rappeler à l'Église ce qu'est son identité, sa position, pour que, connaissant notre identité et notre position, nous puissions vivre en conséquence. En tout cas, ce que Pharaon voulait, c'était surtout de cacher la vérité sur l'identité et la position d'Israël, sa vraie position. Alors, le diable, il fait pareil pour l'Église, voyez-vous. Il fait pareil. Il veut que nous ne connaissions pas véritablement notre position réelle, vraie. Et comme cela, il pourra agir comme il a envie d'agir pour sa cause à lui. Quand nous regardons dans ce texte, nous voyons que Pharaon a utilisé trois phases dans sa stratégie. Et le diable, pour l'Église, il fait à peu près la même chose. Il fait la même chose. La stratégie de Pharaon, c'est la tromperie. C'est la domination jusqu'à la destruction. Le diable veut faire à peu près la même chose. Alors que maintenant que je vous ai montré les comparaisons, je suis sûr que vous allez suivre et comprendre en même temps et même me devancer. La tromperie pour Pharaon. Au verset 10, après avoir dit ses craintes, il dit à ses conseillers, à son peuple, il dit « Allons !» Montrons-nous habiles, soyons malins. Le diable est appelé le malin. Soyons ingénieux dans le mal. Soyons malins, soyons habiles. Nous allons les tromper, nous allons les empêcher de comprendre qui ils sont. En réalité, voyez-vous, Israël n'a jamais été déclaré comme un peuple d'esclaves. Jamais. Nous avons lu le premier verset de ce passage quand il nous est dit que Joseph mourut. Alors, il y a toute une histoire avant. Quand Joseph était le premier ministre, et que ce premier ministre, avec l'assentiment du pharaon de cette époque, avait permis à tout Israël de venir s'installer sur les meilleures terres et pour prospérer. Le peuple d'Israël était un peuple de bergers. Et ils étaient là. Ils avaient leur place. Et il n'y avait jamais question que ce peuple d'Israël soit les esclaves. Jamais, jamais de la vie. Mais il nous est dit dans ces versets qu'il s'éleva un nouveau roi et que la génération du temps de Joseph mourut. Et vous savez, quelque part, avec le temps qui passe, il y a eu comme une déperdition de la réalité des choses. Et l'identité propre d'Israël, peuple de Dieu, peuple libre, peuple prospère, ayant tous ses droits, cette identité s'est perdue, petit à petit, avec le temps. Quelque part, avec ça, avec cette faiblesse de ne pas s'accrocher à la vérité de sa position, eh bien, nous pouvons devenir la proie de tout ce qui veut nous tromper et tordre les choses. Pharaon a utilisé la tromperie en ne révélant pas du tout au peuple d'Israël de cette époque, en quelque sorte, l'histoire et la vérité de ce qu'ils sont. La deuxième chose que Pharaon a utilisée, c'est la domination. Au verset 11, 13, 14, il nous est dit, nommons des chefs de corvée. Vous rendez compte, des chefs pour imposer des corvées, c'est-à-dire non pas des travaux, un travail libre, mais qu'on exige, qu'on met comme fardeau des corvées. Imposons sur eux des chefs de corvée. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et au verset 11, il nous est dit, ils furent accablés de travaux pénibles. Toujours verset 11, ils bâtirent, non pas pour eux, mais pour Pharaon, des villes d'approvisionnement, tandis que eux-mêmes, on les affamait et on les maltraitait. Il nous est dit au verset 12 qu'ils étaient pris en aversion. Le peuple des Égyptiens les haïssait. Toute l'armée, Pharaon, les haïssait. Il nous est dit au verset 13, il fut réduit, le peuple d'Israël, à une dure servitude. Eux, le peuple libre, le peuple de Dieu, aimé de Dieu, devenir un peuple d'esclavage, d'esclaves. Et au verset 14, il nous est dit, la vie des enfants d'Israël, des enfants du Seigneur, était une vie amère. Une vie amère. Avec de durs travaux. Donc ils étaient physiquement anéantis. Ils étaient moralement dans la dépression. Une vie amère et triste. Le triste croyant, n'est-ce pas ? C'est ce que le diable veut pour l'Église du Seigneur, à qui Jésus a promis et a dit, ils auront la vie et la vie en abondance. Et comment ça se fait qu'il arrive que des croyants, que des églises, que des gens appartenant au peuple du Seigneur vivent avec l'amertume, avec la peine, avec la souffrance, défaits dans l'échec, écrasés. C'est ce que le diable veut. La tromperie, la domination, la destruction même. Parce que nous voyons, après au verset 16, il a décrété que tous les enfants mâles, tous ceux qui pouvaient faire la force d'un peuple de cette terre, des hommes qui pourraient devenir des soldats et former l'armée, il faut surtout pas que de ce peuple, il y ait un esprit guerrier, un esprit combattant. Non, non, il faut tuer tout cela dans l'œuf. Voilà. Réduire selon ce peuple à néant. Ça, c'est ce que Pharaon voulait faire pour le peuple. Et c'est ce que le diable veut faire pour nous au fil du temps qui passe, quand nous continuons à aller de l'avant comme cela, petit à petit, nous risquons de tomber et de découvrir que finalement, je sais qui est le chef, qui est le dominateur, qui opprime ma vie, alors que je suis appelé à être un peuple incroyant. La fin de l'histoire de Wainwright. Hein? On va y revenir. Voilà. Parce qu'on fait en parallèle les choses. Le colonel américain arrive au camp. Et il va voir Wainwright personnellement. Il lui annonce la bonne nouvelle. La victoire incontestée. La reddition de l'ennemi. Il y a eu comme un réveil dans l'esprit de Wainwright. Il était physiquement encore misérable. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et là, quittant cet homme, il retournait à son baraquement. Sur le chemin, des gardes japonais étaient là pour continuer encore à le bousculer, à se moquer et à jouer de lui, à le maltraiter. Et cet homme, rempli soudain d'un courage et d'une autorité indomptable, se tient autant qu'il pouvait sur ses jambes. Il les a regardés droit dans les yeux et leur a dit « Mon commandant en chef a vaincu votre commandant en chef. Maintenant, je prends autorité sur ce camp et tu dois te rendre. » C'est formidable ça. Un prisonnier qui regarde, mais il n'est pas prisonnier. Il a compris qu'il était libre. Il a compris que son chef, son pays a été libéré. Et lui, il en fait partie. Et la victoire de son chef est devenue intégrante, sa propre victoire. L'autorité de son chef est devenue son propre autorité. Et devinez ce qu'ils ont fait, les gardes et le commandant de ce japonais de ce camp. Eh bien, ils n'ont rien pu faire. Et ils n'ont rien pu faire. Ils ont dû se soumettre à ce que venait de dire en toute vérité Wainwright. Ça, c'est une belle histoire. Quelque temps après, bien sûr, il sort de ce camp de redressement. Il a été amené plus tard, j'ai les dates, mais je ne vais pas vous les dire, ça vous donne envie d'aller rechercher ces choses-là. Hein. Il a été emmené plus tard à Tokyo, à bord du USS Missouri. Là, sur ce bateau, c'était le rendez-vous avec MacArthur, qui avait invité Wainwright, et un autre général, le général Percival, un général britannique, qui avait lui aussi en son temps, il a été défait à Singapour lors des combats par les Japonais. Et où MacArthur avait invité ces deux généraux, donc y compris Wainwright, pour venir à bord de ce bateau où il y avait les représentants japonais, pour que, officiellement, sur le document, ils signent leur reddition. MacArthur a signé. Et puis, à la grande surprise de Wainwright, qui, en son temps, avait promis à MacArthur qu'il tiendrait bon et qui était torturé de n'avoir pas pu tenir ses paroles, MacArthur généreusement l'a invité déjà à cette cérémonie et à sa grande surprise de venir sur le devant, de prendre la plume et d'y signer lui-même aussi. Le général qui a été en prison, torturé, méprisé. Maintenant, il signe à côté de son chef la signature de la victoire et la prononciation de la défaite de l'ennemi. Quelque temps plus tard, pas trop longtemps, le président des États-Unis, Truman, a demandé à Wainwright de venir à la Maison Blanche, dans le bureau ovale. Et là, ils se sont vus. Et puis, il l'a invité, comme cela, il l'a tenu par le bras, l'a invité à sortir dans le jardin, où il y avait toute une grande foule, et où il y avait des militaires, des officiers, et il y avait là aussi la presse. Et là, devant tous, Truman a donné une allocution. Et à la fin, il est allé vers Wainwright et il a mis autour de son cou la médaille d'honneur. Il a été promu également lieutenant général. Devant tout le monde, cet homme a pu être ainsi décoré. Une belle histoire. Une belle histoire encourageante. Maintenant, revenons alors vers Israël. La suite de l'histoire. La suite de l'histoire, nous le voyons dans le chapitre 2 et au verset 23, où il nous est dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Il n'est pas éternel, cet homme-là. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. La suite de l'histoire, c'est que ce peuple s'est mis à crier dans leur souffrance, dans la domination et dans cet état qui est anormal. Ils se sont tournés de nouveau vers la source de ce peuple, vers Dieu lui-même. Ils ont poussé des cris vers le Seigneur. Et automatiquement, la Bible nous dit que Dieu, ce Dieu tout-puissant, mais ce Dieu rempli d'amour pour ses enfants et pour son peuple, il entendit. Et vous connaissez la suite, quand au chapitre 3, Dieu s'est mis en marche. Il a suscité extraordinairement, étrangement, quelqu'un qu'on n'y pense même pas, Moïse. il le voit et il lui dit, Moïse, vous le lirez encore, il nous a dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu le cri de mon peuple, je connais ses douleurs. Des fois, nous nous sentons si seuls, avons l'impression que nous nous débattons dans nos problèmes tout seuls. Mais Dieu assure ici, il dit, j'ai vu, j'ai entendu, si du moins nous crions vers lui. Je connais leur situation et je suis descendu, je vais descendre pour les libérer. Alléluia. Aucune situation ne peut nous séparer de cette réalité que nous appartenons à Dieu. Même si le diable essaye de nous intimider, essaye de nous tromper, essaye de nous rouler dans la farine et de nous tirer par le bout du nez pour nous décourager, nous faire jeter l'éponge, en aucune manière, si nous faisons partie du peuple de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous abandonnera en aucune manière. Quand bien même ça paraît sombre, ça paraît sans espoir, dans l'invisible, Dieu n'est pas loin de nous. Il est à côté de nous, il est distant de nous que par un cri de foi, prière vers lui. Alléluia. J'ai vu et je suis descendu. Alors, Dieu va convaincre Moïse. Je saute les détails. Et puis Moïse a été appelé à aller convaincre les anciens du peuple d'Israël. Et puis ensemble, ils devaient convaincre tout le pays, tout le peuple d'Israël. D'une vérité. Quand nous perdons de vue la vérité, voilà où le peuple d'Israël était amené. Mais là, la vérité, un par un, et c'était difficile des fois, le Seigneur a dû enfoncer le clou chez Moïse, vous connaissez, hein, et Moïse a dû enfoncer le clou auprès des anciens auprès du peuple. C'était pas facile et de temps en temps, même, il y a eu quelques doutes et quelques envies de lâcher. Mais c'est ce que Dieu veut pour ce peuple. Il dit, maintenant, vous allez connaître la vérité. Et non seulement les paroles que je te demande d'adresser à Pharaon, mais en même temps que le peuple le sache. Laisse aller mon peuple librement. Pourquoi faire? Pour qu'il aille m'adorer et me servir. Cette parole, cette vérité constamment comme un marteau qui frappe contre Pharaon. Ah, il ne lâche pas prise. Et vous savez, le diable, il ne nous lâche pas prise comme ça facilement. Il essaye de résister à cette vérité imposée. Il essaye d'intimider, il dit, ah bon, eh bien si c'est comme ça, je vais encore donner davantage de souffrances, davantage d'épreuves. Vous n'avez pas remarqué que des fois, quand on veut marcher à fond avec le Seigneur, ben c'est là que, étrangement, il y a des soucis et des tracas, et des chefs de corvée, de maladies, de problèmes familiaux, de problèmes de finances, de ceci, de cela, de relationnel, etc. Plein de chefs de corvée qui viennent et qui nous oppriment. Hein? Ben si c'est comme ça, dit Pharaon, je vais encore serrer davantage la vis. C'est ce qu'il dit. qu'est-ce que le croyant, qu'est-ce que Dieu veut que le croyant continue à affirmer et à proclamer. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Mon identité. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je suis à lui. Je suis son peuple. Je suis son enfant. Et plus le diable essaye peut-être de décourager le croyant, plus le croyant doit s'appuyer sur les réalités. Réaffirmer, redécouvrir, réajuster pour que ça, son identité soit et reste ce qui est vrai. Nous sommes plus que vainqueurs par le Seigneur. Alors, ils ont affirmé. Et la Bible dit quelque part, et vous le chercherez encore ce verset. Le peuple crut. Moïse a cru. Les anciens ont cru. Et puis on arrive à ce verset où il nous est dit, le peuple a cru. Et puis alors commencent tous ces 10 plaies, cette confrontation avec l'adversaire. Mais heureusement qu'au fur et à mesure, chaque fois que le diable ou que Pharaon essayait de décourager, le peuple entendait toujours ce leitmotiv qui revenait. Laisse aller mon peuple. Mon peuple est appelé à m'adorer et à me servir. C'est un peuple libre. Ça, c'est ce qu'il faut planter au plus profond de nous, dans notre marche avec le Seigneur. C'est tellement important, frères et sœurs, d'affirmer notre identité, notre position. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jean, au chapitre 8, versets 31 et 32. Jésus dit ceci, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous affranchira. Amen. La vérité. Le livre que nous avons, c'est le livre de Dieu, des déclarations de Dieu et de la vérité de Dieu. Tout peut s'écrouler autour de nous. Nous sommes des gens émotionnels et peut-être nos émotions disent certaines choses. Mais le monde passe. Nos émotions ne sont pas fiables. La parole de Dieu, qui est la vérité, elle demeure. Et si nous fondons notre vie sur la parole de Dieu, sur le roc, alors vents et marées peuvent souffler sur notre vie, sur notre situation familiale, personnelle, ou n'importe. Eh bien, nous resterons. Nous savons que notre position, c'est une position d'être dans le Seigneur. C'est notre identité. Nous devons savoir, apprendre que notre commandant en chef a pris la victoire. Dans Colossiens, au chapitre 2, Colossiens, chapitre 2. Je l'ai marqué là. Et au verset 14. Voilà ce qui est dit de la victoire de notre commandant Jésus. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Eh bien, il a dépouillé les dominations et les autorités, le diable et toute la puissance des démons. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mon chef a gagné mon ennemi. Il a triomphé. Il a triomphé. Ça, c'est une vérité qui va m'affranchir. Mon chef a gagné. Le diable. Vous savez, dans Luc au chapitre 10, les 70 sont revenus de leur mission. Et qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai vu Satan, détrôné, tombé du ciel comme un fétu de paille. Le diable est vaincu, Jésus est vainqueur. Ça, c'est une vérité que je dois connaître, que je dois inscrire dans mon identité. Deuxième vérité que je dois inscrire au-dedans de moi, ça se trouve dans Hébreux, au chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux, chapitre 2, verset 14. La vérité, c'est que non seulement mon chef a vaincu, mais il me fait maintenant participant, comme Wainwright, de la victoire de mon chef. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus, parce qu'il a gagné, m'a confié aussi la victoire pour moi et du même coup me délivre de ma vie craintive. Combien de croyants pourraient dire le diable est fort, il est fort. Chaque fois qu'on entend ça, ou même si on n'entend pas verbalement de telles paroles, que nos bouches confessent la force de l'adversaire. Mais est-ce que par derrière, nous confessons quelqu'un qui est plus fort que celui qui est fort? C'est vrai qu'il est fort. C'est vrai que tout seul, face à lui, nous ne pouvons pas tenir. Mais notre bouche et notre cœur et notre identité doivent déclarer le plus fort des plus forts qui est avec nous. Ce que notre bouche et ce que notre cœur confessent et croient, est essentiel. Ça va donner le tempo à notre façon de vivre, mon identité en Christ. C'est la bonne nouvelle pour l'Église, ça, C'est la bonne nouvelle pour l'Église. Éphésiens chapitre 1, on va le lire, verset 19. La Bible parle de l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette grandeur et cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. La Bible dit que l'adversaire est sous les pieds de Jésus. Et immédiatement, il est dit que l'Église est le corps de Christ. Donc, l'Église, dans les membres du corps de Christ, il y a les pieds. Et il a tout mis sous ses pieds. Non seulement il est vainqueur, mais son corps, l'Église, en attachement avec Jésus, est vainqueur sur le diable. Alléluia. Ça, c'est mon identité. Ça, c'est l'identité de l'Église d'Arles. Ça, c'est l'identité de l'Église du Seigneur. Il nous donne la victoire. Regardez ce qui est dit dans Romains, chapitre 16, verset 20, je vais bientôt finir. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Oui, c'est la grâce du Seigneur. Oui, c'est la grâce. La grâce de nous rendre vainqueurs, plus que vainqueurs. Et bien dit ici clairement, il écrasera Satan sous mes pieds. Amen. C'est la promesse et la déclaration de la parole de Dieu. Vous savez, Wainwright a été acclamé avec, et puis ils se sont réjouis ensemble avec le président, avec le général, avec les généraux, avec les soldats, avec la foule en liesse. Eh bien, nous aussi, frères et sœurs. Un jour viendra, quand nous serons là-haut, gens de tout pays, de toute langue, de toutes les couleurs et de toutes les races, appartenant au peuple de Dieu, des palmes à la main, des robes blanches lavées dans le sang de Jésus. Nous serons devant le Seigneur et nous chanterons la victoire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et dans cette perspective sûre et certaine, eh bien, même si l'adversaire essaye de me maintenir dans quelques coins isolés, dans quelques passages difficiles, je ne me laisserai pas démonter. Je ne me laisserai pas démonter. Il est dit dans 1 Jean 4,4, encore deux versets et puis on termine. 1 Jean 4,4, il est dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous êtes mon peuple, vous êtes à moi, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Ça, c'est formidable. J'ai pour ami, pour protecteur, celui qui est proche de moi, avec moi. Et c'est le plus fort. Même si je suis faible et tremblant, qu'on ne me touche pas, parce que je suis la prunelle de ses yeux, le peuple de Dieu, ce sont ses prunelles. Et Dieu dit, malheur à qui touche à mon peuple. Nous sommes les enfants du roi. Qu'on ne touche pas aux enfants du roi. Et nous pouvons proclamer, déclarer nos droits. Et un dernier verset pour nous. D'une manière personnelle à chacun. Dans Hébreux, au chapitre 13, versets 5 et 6, où il nous est dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance. Quand Dieu nous dit cela, nous, quelle est notre réaction? Il est dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alléluia. C'est ça notre position. Serrons sa parole. Servons le Seigneur. Avec force et courage et détermination. Je vois sur cette terre personne au cœur aussi noble, aussi héroïque. Aucun peuple n'est aussi fier que le peuple de Dieu. Non pas de la fierté orgueilleuse pour ce que nous sommes par nous-mêmes, mais fier et heureux d'être le peuple du Seigneur. d'être le peuple vainqueur. Dieu ne nous a pas promis qu'il n'y aura pas de difficultés, pas du tout. Mais les difficultés de la vie forgent notre vie et provoquent la fermeté de notre foi que nous ne voulons pas lâcher. Et nous serons comme au jour de l'Apocalypse que nous avons dit tout à l'heure, les palmes à la main, revêtues de robes blanches. Et nous serons comme le peuple d'Israël, avec Moïse, avec Myriam, sur le rivage de la mer Rouge, regardant la mer revenir et les ennemis, les cadavres des ennemis, ceux qui en voulaient à leur vie. Et là, sur la plage, les dames se mettent ensemble à danser, à crier, à tambouriner. Et les messieurs aussi. Les dames, elles sont des fois dans ce domaine-là et dans d'autres domaines des avant-gardistes, hein, dans leur audace pour Dieu. Et voilà que tout le peuple s'est mis à chanter ce cantique que vous lirez dans Exode au chapitre 15, le dernier chapitre de Exode. Béni soit Dieu, notre Dieu, nous sommes libres, libres, c'est notre Dieu, il est le Dieu de la délivrance, il a englouti le cavalier et son cheval, et il nous a libérés, et nous marchons maintenant, la tête haute, dans la victoire, vers le pays promis. Alléluia. Ce matin, eh bien, nous sommes un peuple qui s'unit avec ceux qui comprennent cette vérité. Et dans la louange, tout à l'heure, pasteur a dit, ce matin, eh bien, c'est un culte de louange. Et c'est ça, nous voulons laisser la gloire du Seigneur nous envahir. Et plus nous le louons, et plus nous l'adorons, et plus nous le proclamons, eh bien ça surpasse nos difficultés et les problèmes. Même s'ils sont là, mais ils ne nous écraseront pas. Et parce que nous avons la victoire, nous triompherons en temps convenable d'une épreuve après une autre. Et nous arriverons à bon port sur le rivage éternel avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Eh bien voilà, je laisse maintenant mon frère pasteur avec l'équipe de louanges et nous mangerons, en même temps que nous louerons par la suite, nous mangerons aussi ce repas qui nous rappelle ce que la victoire d'il y a 2000 ans, mais aussi le rendez-vous pour un repas là-haut dans le ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis, parce que nous sommes vainqueurs, nous pouvons dans ces jours-ci et dès cet après-midi, proclamez aux autres, venez vous joindre à nous et soyons le peuple qui marche à contre-courant dans l'Égypte de ce monde, mais soyons le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Amen.